Seb, comment vas-tu?
Ça va très bien, Émile. Car on part en road trip et on amène notre cabaret des curiosités du web dans plusieurs villes du Québec au cours des prochains mois. Dans ces shows live, on explore de drôles d'histoires qui parfois nous font rire et parfois nous terrorisent. Les histoires changent à chaque show.
Le tout débute à Gatineau le 27 avril dans le cadre du Festival Transistor. Après, on se retrouve à Shawinigan le 13 juin au Wabasso avec nos amis de Côté Sombre. Et le 11 juillet, on se retrouve à Longueuil dans le cadre du Comic Fest à la salle Fanplast. Les billets sont en vente pour tous ces shows-là et d'autres dates risquent de s'ajouter sous peu, donc restez à l'affût.
Rendez-vous au distorsionpodcast.com pour connaître toutes nos dates et vous procurer des billets. Si vous souhaitez que Distorsion passe faire un tour dans votre région, écrivez-nous. On a vraiment hâte d'aller à votre rencontre.
De retour à votre programme principal.
Vous êtes sur le point d'écouter Distorsion, un podcast sur...
Two innocent girls walking on the trails, laughing, giggling... Taking pictures.
The girls stuck together right up to the end.
Des histoires étranges de l'ère numérique.
En février 2017, deux jeunes filles du village de Delphi partent en randonnée un jour de congé scolaire.
Hélas, cette journée en apparence parfaite tourne au cauchemar alors qu'ils font une rencontre inattendue.
Les filles vont documenter leur voyage en enfer à l'aide de leur téléphone intelligent et de Snapchat.
Cet acte ultime de bravoure jouera un rôle clé dans les avancées de cette enquête encore non résolue qui choque encore l'Amérique.
Sébastien Lévesque, comment ça va aujourd'hui?
Ça va bien, et toi, Émile Gauthier?
Ça va très bien. L'histoire de ce soir est assez choquante, on l'a dit en intro. C'est une histoire assez récente. C'est rare qu'on couvre une histoire récente comme ça. C'est arrivé en février 2017, donc une histoire qui a environ 2 ans et toujours non résolue. Donc, généralement, dans un épisode de Distorsion, on va attendre qu'il y ait quelques années parfois, mais dans ce cas-ci, on en sait très peu. Il y a très peu d'informations divulguées par les autorités. Donc, ça laisse beaucoup de place à la spéculation. Mais comme il y a un potentiel meurtrier qui court toujours, on se disait que c'était quand même important d'en parler.
Oui, puis dans ce cas-ci, on a vraiment affaire à deux jeunes ados qui sont allés prendre une marche dans la région de Delphi, qui est une petite ville de l'Indiana, là, à peine 3000 habitants.
Oui.
Et malheureusement, ils ont fait une mauvaise rencontre sur leur chemin. Tout le long de leur randonnée, par contre, ils ont publié sur les réseaux sociaux un réflexe de cette génération-là, heureusement. Donc, en particulier Snapchat, là, puis ils ont même enregistré la voix de leur potentiel agresseur.
Et ils l'auraient même filmé, même.
Oui,
donc,
exact.
Sans ces traces numériques-là, en fait, les policiers auraient beaucoup de mal à avancer dans cette enquête.
Oui.
On en sait très peu sur vraiment les dessous de l'enquête, mais on sait au moins qu'il y a un suspect dont on est à la recherche. Et il y a encore maintenant, même 2 ans plus tard, une chasse à l'homme qui est en cours. Et c'est quand même assez difficile d'aller chercher l'information exacte. Donc, on va se tenir beaucoup dans les zones de spéculation et de rumeurs même ce soir, mais ça risque d'être fort intéressant.
Oui, ben oui, la police, étant donné qu'ils sont en pleine enquête, dévoile jamais trop d'informations justement pour jamais nuire aux enquêtes.
Évidemment.
Et dans ce cas-là, ça devient, comme il le disait, un petit peu plus dur pour nous de documenter le tout.
Et cette semaine, la bière de la semaine nous est offerte par Marina, donc merci à toi. Et il s'agit de la Juteuse, une bière de la microbrasserie Ralbock de Saint-Jean-Port-Joli.
Oui.
On la décrit comme une IPA blanche aux fruits de l'espace, donc parfaite pour Distorsion. Elle a un goût bien houblonné avec les houblons Mosaïque et Equanaut, et elle est à 6% d'alcool. Vraiment, ça fait longtemps que j'avais bu une bonne blanche IPA comme ça, là, très rafraîchissante, très fruitée, agrumée.
Oui.
Oui. Vraiment délicieuse. Et on vous dit de faire vite parce que c'est une édition limitée. Il en reste déjà presque plus. Donc, merci à Marina de nous avoir offert cette bière via la tournée de bière du site au distorsionpodcast.com. Si vous voulez faire comme elle, rendez-vous sur le site, cliquez sur l'onglet tournée de bière et on accepte vos dons. Et évidemment, toutes nos bières viennent du biérologue sur la rue Ontario à Montréal, dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve, le meilleur endroit au monde pour trouver des bonnes bières. Donc, on vous suggère de vous rendre là pour trouver cette magnifique bière juteuse.
On a aussi un review 5 étoiles sur Apple Podcasts qui nous vient de Annie D. Elle nous dit qu'elle nous a découvert via le magazine Coup de pouce. Et oui, on a déjà eu un petit article justement dans le magazine Coup de pouce l'an dernier. Elle nous dit « Ma curiosité a été piquée, je suis maintenant fan de Distorsion. Les sujets sont intéressants, bien fouillés, bien expliqués, techno mais pas à l'extrême, à écouter. »
Merci. Et on a aussi un shout-out spécial à Daniel de la Suisse. Daniel a offert à sa fille Mouna un t-shirt de Distorsion pour son anniversaire. Donc, quel beau cadeau.
Vraiment.
J'aimerais
hein?
ça que mon père m'offre un t-shirt de Distorsion.
Moi aussi.
Heureux de voir que pour eux, justement, Distorsion, c'est une affaire générationnelle qui se transmet de père en fille. Donc, merci à vous, Mouna et Daniel. Et si vous voulez faire comme Daniel et offrir des beaux cadeaux aux gens de votre famille là, pour Noël, rendez-vous au boutique.distorsionpodcast.com. Vous allez trouver toute notre collection de marchandises, t-shirts, posters, sacs et étuis iPhone et Samsung Galaxy.
Oui. Et aussi, j'aimerais vous parler de notre 50e épisode, Émile.
Déjà?
Oui, c'est quand même pas rien, hein, ça va vite. Et pour souligner l'événement, pour nous, c'est quand même un jalon qu'on avait envie d'atteindre, qu'on est très content. Le 13 décembre à 18h, minuit, pour nos amis européens, on aura un épisode bilan live qui va être diffusé sur Facebook et sur YouTube. Et il va y avoir aussi une période de questions-réponses en direct que vous allez pouvoir nous poser. En plus de ça, sur le groupe Facebook, vous allez pouvoir déjà poser des questions d'avance et il va y avoir un événement aussi sur Facebook qui va contenir tous les détails supplémentaires par rapport à cet événement live le 13 décembre.
Exactement. Donc, mettez ça à votre agenda. C'est un épisode vidéo, évidemment. Donc, vous allez nous voir, moi et Seb. C'est un épisode qu'on va filmer. Donc, on va être en direct avec vous. On va pouvoir prendre vos questions, réagir en temps réel. Oui. Tout ça, là, afin de souligner, là, ce milestone important de 50e épisode.
Je crois qu'on a tout dit, mon cher Émile. Est-ce que nous sommes prêts à se lancer dans cette enquête fascinante?
Oui, monsieur!
Let's go! Nous sommes le 13 février 2017, la veille de la Saint-Valentin, dans la petite municipalité de Delphi, qui est située dans l'État de l'Indiana, aux États-Unis. La petite municipalité est peuplée d'environ 3000 personnes qui se connaissent à peu près tous. Malgré que nous sommes en février, il n'y a pas de neige à Delphi, mais la température est plutôt fraîche. Cette journée-là, l'école secondaire de la région est en congé en raison d'un Snow Make-up Day, ce qui signifie un jour de congé prévu en cas de mauvaise météo. On a la même chose au Québec, là, les journées prévues pour ça. Ce jour-là, par contre, il fait très beau, mais la journée de congé est maintenue quand même. Donc, tous les élèves de l'école restent à la maison pour un long week-end.
Là, on a vu différentes versions faire surface dans les médias au sujet de qu'est-ce qui s'est passé cette journée-là. Donc, la plupart des médias disent que c'était justement un jour de congé pour en cas de tempête, comme tu as mentionné, Seb. Mais je sais qu'il y a d'autres sources, entre autres les gens du podcast True Crime Garage, eux affirment que en fait c'était une journée de formation avec des présentations et des conférences qui étaient données dans les classes en avant-midi. Okay. Donc encore une fois, c'est difficile de savoir qu'est-ce qui s'était passé. Mais en fait, ce qui est clair, c'est que les élèves n'avaient pas d'école cette journée-là.
L'après-midi, du moins.
Oui.
Au moins l'après-midi. Deux étudiantes de l'école, Abigail Williams, qui est âgée de 13 ans, et Liberty German, qui est âgée de 14 ans, décident de saisir l'opportunité de ce jour de congé pour faire une activité extérieure, puisqu'après tout, la température est favorable pour ça et elles ont congé. Elles décident d'aller faire une randonnée dans une forêt avoisinante et se font emmener en voiture par la sœur de Liberty, Kelsey. Pour vous parler un petit peu des deux petites filles, Liberty a fait environ 4 pieds 4. Elle est un peu bâtie. Elle a des cheveux blonds longs jusqu'aux épaules. Elle a de magnifiques yeux bleus. Abby fait à peu près, son amie, fait à peu près la même taille. Elle est beaucoup plus délicate par contre. Elle a aussi des cheveux blonds de longueur moyenne et des yeux noisettes. Ce jour-là, elle s'habille de manière sportive avec des chandails à capuchon et des espadrilles. Les filles se font déposer près d'un chemin de fer à 13h45 près du Monon High Bridge, qui est un pont à train abandonné qui traverse la rivière Deer Creek.
faire une petite parenthèse, quand ils ont construit le Monon High Bridge, en fait, toute cette trail-là, c'était dans les fins des années 1800, puis c'était pour une route commerciale. Il y avait au-dessus de 1000 personnes qui avaient travaillé sur le chantier, et ça, ils ont souffert de choléra. Il y a des gens qui tombaient en bas aussi durant. Ça n'a pas été un chantier très simple, et il n'a même pas duré longtemps. Donc, il est abandonné depuis plusieurs années, et maintenant, justement, la ville l'a repris pour faire des sentiers pédestres et des pistes cyclables, des choses comme ça.
Ouais, faut pas oublier que ce pont-là, même s'il traverse un petit ruisseau, là, le Deer Creek, c'est quand même un pont qui est très long. C'est-à-dire que même lorsqu'il passe dans la forêt, il est surélevé vraiment sur des poutres. Donc, c'est vraiment un long pont, là. Je vous mets en contexte un peu parce que ça va devenir important tout à l'heure dans la suite des événements.
Les filles sont des adeptes de sport, en particulier le softball et la natation. Donc, ce n'est pas inhabituel pour elles de faire ce genre de randonnée. Là, c'est des petites filles quand même assez en forme.
Oui. Et on voit que pour cette journée-là, tu l'as mentionné tout à l'heure, il y avait un gilet à capuchon, des espadrilles, mais il n'y avait pas d'équipement plus élaboré que ça. Là. Il n'y avait pas même de tuque ou de sac à dos, tout ça. C'était vraiment prévu d'être une randonnée là, qui allait être pas très longue.
Non, c'est ça, de courte durée.
Rien ne nous dit si elle comptait faire la randonnée au complet, car elle est quand même longue, cette Delphi Historic Trail. En fait, il s'agit d'un ensemble de sentiers qui font environ 15 kilomètres.
Oui.
Donc, je suis allé voir là, sur les sites là, de critiques de randonnée et tout ça. Et puis, en fait, contrairement à ce qui peut être rapporté dans les médias dans cette histoire-ci, là, ce n'est pas un seul sentier que tu marches d'un bout à l'autre. C'est vraiment un regroupement de différents sentiers qui, parfois, sont en béton avec des accès pour handicapés, donc très facile, et parfois sont en petites pierres, là, en garnottes, là, comme on dirait en québécois, où c'est plus approprié pour, je sais pas, promener son chien ou faire même du vélo de montagne. Donc, l'ensemble des activités qu'on peut faire dans cette randonnée-là là, est très vaste. On peut, comme je le disais, promener son chien, mais on peut aussi pratiquer la pêche le long de la rivière Deer Creek. Les sentiers nous amènent à visiter les propriétés historiques de l'Indiana, ainsi que de magnifiques paysages. C'est quand même assez bien... C'est assez magnifique, là, certains paysages qu'on peut rencontrer dans cette randonnée-là. Par contre, certains commentaires sur des sites amateurs de randonnée semblent dire que les chemins ne sont pas très bien indiqués sur les sentiers, donc il y aurait des petits problèmes de signalement. Et rappelons-nous aussi que les deux filles ont choisi de se faire laisser en voiture près d'un pont abandonné, donc elles ne comptaient visiblement pas se limiter aux sentiers officiels, parce que ce pont-là, justement le Monon High Bridge, Seb, comme on le décrivait tout à l'heure, il est tout près de ces sentiers-là, mais c'est pas un sentier officiel, même que ça peut être dangereux.
Okay.
Parce que lorsqu'on est situé sur le pont, lorsqu'on marche dessus, c'est quand même très haut. Il n'y a pas de barrière de chaque côté. Et il y a vraiment, je veux dire, il y a des trous entre chaque planche de bois. Là, donc, on peut mettre le pied dans le vide à certains moments. Donc, selon moi, c'est le passage sur le pont doit être pas tout à fait 100% légal, selon moi. Là. Du moins, ça semble pas faire partie des sentiers officiels de cette Delphi Historic Trail.
C'est particulier que, je sais pas, les gens de la municipalité n'ont pas du moins bloqué l'accès pour éviter qu'il y ait des accidents graves. Imagine si quelqu'un perd pied et tombe.
Oui.
Tu peux accuser. Je pense que la municipalité doit avoir un certain rôle dans ça. Je trouve ça étrange qu'ils n'ont pas régulé ça, ou du moins. Comme tu le dis, là, parce que je trouve qu'il y a
beaucoup de danger. C'est vrai, mais en même temps, tu sais, c'est une petite municipalité. Hein.
Ouais,
moi, je viens de la Gaspésie, puis je me rappelle à Gaspé, j'allais souvent me balader sur la traque de chemin de fer qui près de la rivière Jean-Cartier. Puis il y a même un pont qui traverse cette rivière-là, donc qui fait très penser à la situation de Delphi. Et puis moi, de toute mon enfance, on allait sauter en bas du pont dans la rivière et c'était jamais surveillé. Il y avait aucune barrière ni même très peu d'indications. Donc souvent dans les petites municipalités comme ça où il arrive très rarement des accidents ou des crimes, on se fie au gros bon sens. Là,
non, j'avoue que tu as moins de gens à contrôler, il y a moins de chances d'accident.
Oui, c'est ça. Les deux filles ont chacune un téléphone intelligent avec elles. De plus, Abby porte un chandail à capuchon rouge, ce qui permet aisément de la repérer à une bonne distance à travers les arbres dépourvus de leurs feuilles, car rappelons-nous, on est l'hiver. Elles vont bien profiter du sentier pendant quelques temps. Elles vont poster des photos sur les médias sociaux, notamment sur Snapchat, et on va y voir le fameux pont en train là, en question sur ces photos-là. Le plan, c'est qu'elles doivent se faire récupérer par un membre de la famille dans l'après-midi. Certaines sources disent une heure après le départ, ce qui me semble assez tôt là, pour une randonnée, mais d'autres sources nous disent vers 17 heures, ce qui, au contraire, me semble un peu tard, parce que on se rappelle, on est en février, le soleil se couche quand même tôt, donc à 17 heures, généralement, il fait déjà noir. On va revenir un peu plus tard sur cette confusion dans la chronologie des événements, là. Une chose est sûre, vers 17h30, toujours aucune nouvelle des deux ados, même après qu'un membre de la famille se soit présenté au point de rendez-vous, ce qui est très bizarre. Comme il s'agit d'une petite municipalité, qu'il est quasi impossible de se perdre et que les deux filles ne sont pas du tout du genre à faire des fugues, la famille contacte tout de suite les autorités pour signaler leur absence. Des fouilles vont donc commencer assez rapidement dans cette région-là, dans le coin de la Delphi Historic Trail. Les policiers vont effectuer un quadrilatère autour de la zone où elles ont été vues pour la dernière fois. Ils vont aussi tenter de contacter les téléphones intelligents des deux filles. Ils n'auront pas de succès lors de ces tentatives, hélas. Puisque les deux filles sont parties seulement quelques heures auparavant, il est peut-être crédible de penser que leurs deux batteries sont mortes. Toutefois, à première vue, selon les enquêteurs, il s'agirait que ces téléphones-là auraient été manuellement éteints, ce qui est quand même étrange un peu.
Oui, effectivement. Parce que c'est vrai que le ping n'est pas le même entre être éteint par manuel ou par la batterie. Il y a vraiment une différence dans le signal. En fin de soirée, les policiers n'ont toujours aucune idée où sont localisées les deux filles et décident de suspendre les recherches jusqu'au lendemain. Avec la nuit qui arrive assez tôt, cela complique les recherches, un peu comme on vous disait, là. À ce moment, les autorités affirment ne pas croire que l'intégrité des filles est en danger, ce qui est un peu bizarre compte tenu du fait que ce n'est pas vraiment habituel de la part des deux amis de ne pas rentrer à la maison. Ils pensent qu'il est possible que les deux filles aient vécu un accident et soient peut-être en proie aux éléments, c'est-à-dire qu'il fait très froid dans la nuit, là, et ils craignent justement l'hypothermie.
Mm-hmm.
Ils vont reprendre le lendemain autour de 11h45 en matinée, en amenant cette fois-ci des chiens renifleurs sur le sentier. Par contre, moi, 11h45, je trouve ça quand même un peu tard là, commencer recommencer les recherches. J'aurais pu commencer ça à 7h le matin, 8h le matin. Si justement les enquêteurs ont un doute sur le fait que les filles sont peut-être mal prises au niveau de l'hypothermie, tu ne laisses pas mourir de froid encore 6, 7, 8 heures de plus. Me semble ça, cette décision-là, je la trouve un petit peu particulière.
Oui, absolument. Oui, c'est vrai, Seb. Et ce que j'ai lu de voix non officielle, c'est qu'apparemment, bon, on nous disait que la veille, les recherches avaient été arrêtées aux alentours de minuit pour reprendre le lendemain en fin de soirée. Donc, ce qui fait du sens. Par contre, on nous dit que les membres de la famille puis même des volontaires auraient cherché jusqu'à 2, 3 heures du matin dans la nuit. Et même chose le lendemain. Moi aussi, je trouvais ça tard quand j'ai lu ça, 11h45, pour reprendre des fouilles. Il me semble que tu te pointes au lever du soleil, 4-5 heures. Mais apparemment que des gens de la famille, encore une fois, et des volontaires, étaient sur place là, vers 7 heures du matin pour continuer des recherches. C'est pas des recherches 100% officielles, mais au moins, ça aide. Je pense que les policiers voulaient peut-être rassembler une expertise un peu plus grande. Mmh. On se rappelle qu'on est dans une petite région rurale qui a peut-être pas cette expertise-là. Donc, pour amener des chiens renifleurs et peut-être des experts, c'est peut-être un peu plus long. Bon, je veux pas rien excuser, j'avais trouvé ça étrange un peu.
Mais c'est vrai que la logistique, effectivement, j'avais pas pensé aux chiens renifleurs pour des petites municipalités. Toutefois, par contre, les policiers sont plus nombreux que la veille, aidés, comme tu le disais, des membres de la famille de Abby et de Liberty, et tous les autres membres, plusieurs membres de la communauté, bien sûr, de Delphi. Un peu plus tard, que midi, les autorités vont faire une découverte inattendue. Ils vont découvrir les deux corps inanimés de Abigail et Liberty près de la rivière Deer Creek, qu'on vous a parlé tout à l'heure, à un demi-mille du fameux pont abandonné, ce qui est environ 1,8 km, là, pour vous donner une idée. À ce moment, il est clair pour les enquêteurs qu'il y a eu une intervention humaine, qu'elles ne sont pas décédées de cause naturelle. Mais il y a très peu de détails qui vont être révélés par les enquêteurs au public. Lorsqu'ils sont questionnés par les médias à propos de ce qui les laisse croire qu'il y a eu un acte criminel, le porte-parole de la police du comté a répondu « en raison de la manière dont les corps ont été retrouvés ». Ça, c'est étrange.
Oui, vraiment.
Mais on n'en saura pas plus sur la scène du crime. On n'en connaîtra pas la nature non plus de leurs blessures, ni rien sur la façon dont les corps ont été retrouvés. Rien non plus sur les lieux exacts du crime. On ne sait pas exactement... ça ne veut pas dire que les corps ont été là, ça ne veut pas dire qu'ils ont été tués à cet endroit-là. Donc,
exact.
On n'a pas plus de détails. Une rumeur nous indique toutefois que des pompiers, qui auraient été les premiers répondants officiels à signaler la découverte, se seraient exprimés au service d'urgence. « Nous avons trouvé les deux filles disparues et ce n'est pas beau du tout. » Pour la traduction, là, « and it's not good ».
Ouais, c'est ce qu'ils ont dit. Là. Exactement.
C'est quand même évocateur.
Les policiers vont tenir une conférence de presse le jour même pour confirmer ce qu'ils ont trouvé. Et surtout qu'il s'agit bien des corps d'Abigail Williams et de Liberty German. Les familles des victimes sont dévastées à ce moment-là et c'est très compréhensible.
Bien sûr.
Le 15 février, donc le lendemain, la police de l'Indiana diffuse enfin quelques informations au public, des infos des plus troublantes. Une autopsie a été réalisée sur les deux corps et on confirme bel et bien qu'il s'agit d'un double homicide. Mais on n'en dira pas plus sur l'autopsie. Mais on va y revenir un peu plus tard, vous allez voir. Une photo pixelisée d'un homme marchant sur le chemin de fer est diffusée. Il semblerait que cet homme soit passé par le pont de train dans les mêmes heures où les filles s'y trouvaient. On ne distingue pas tellement le visage de l'homme car il a la tête penchée, mais selon sa stature et la manière dont il marche, et même selon certains traits de son visage qu'on peut distinguer, il semble être facilement là, dans la fin cinquantaine ou même soixantaine. Il y a deux photos qui sont publiées là, à genre un pas d'intervalle. Il porte une genre de casquette brune avec un manteau mauve-bleu, je dirais, là, et des jeans. Un manteau qui a l'air quand même assez grand. Il semble porter plusieurs couches de vêtements, là, comme un chandail à capuchon en dessous de son manteau, et peut-être même un autre chandail brun en dessous, là, c'est pas très clair. Les policiers vont indiquer qu'ils souhaitent trouver de l'information sur cet homme, mais sans le désigner officiellement en tant que suspect à ce moment-là. Et lors de la conférence de presse, étant donné qu'il s'agit vraiment d'une petite municipalité, ils vont aussi indiquer aux membres de la communauté de surveiller les allées et venues de leurs enfants, ce qui est quand même assez inquiétant. L'école du village d'où viennent justement Abby et Libby, oui, c'est ça, va d'ailleurs suspendre les activités parascolaires à l'école le reste de la semaine.
Hey, sincèrement, là, je peux comprendre que les gens deviennent parano, parce que si ce genre d'événement-là arrive dans ton voisinage puis tu as des enfants, je me demande même combien de temps que tu deviens moins parano.
Oui.
Même s'il arrête la personne ou... Tu dois être un peu stigmatisé de ça. Hein? Un peu comme je vous parlais au Québec, depuis Cédrica Provencher, on a senti une surprotection,
si
on peut dire ça, des parents envers leurs enfants, justement, leur aller et venue. On a plus de misère maintenant à les laisser aller à quelque part sans leur faire...
Oui, même au parc.
Oui, sans les surveiller, sans y aller avec eux. Puis tu sais, les petites filles, c'est des adolescentes, là, 13-14 ans, hein, c'est vrai qu'à cet âge-là, mais quand ça arrive, là, c'est certain que ça crée un stigmate assez profond chez les parents de l'entourage.
Oui, absolument. Puis en plus, c'est une municipalité où il n'y en a pas de meurtres, là, généralement.
Non.
Des disparitions, même des crimes ou des scandales comme ça arrive très rarement. Donc, il suffit que ça arrive une fois, puis la panique est lancée. Puis en plus, tout le monde se connaît. Donc, est-ce que le meurtrier est parmi nous? Est-ce que le meurtrier est il va au supermarché avec nous ou à l'église encore ou à tout autre lieu de rassemblement? C'est très inquiétant pour cette municipalité-là.
Ouais, c'est vrai, t'as raison. Tu peux venir à même douter d'un peu tout le monde ça, effectivement.
Parce qu'en plus, les deux filles, bon, on reviendra dans les théories plus tard, mais les deux filles avaient chacun un téléphone cellulaire.
Ouais.
Et à ce que je sache, ils n'ont pas contacté d'aide, là, du moins jusqu'à date, là, juste qu'on sait. Là. Donc, très, très étrange. Est-ce que c'était quelqu'un qui connaissait ce monsieur-là? On ne sait pas vraiment. Il faut pas oublier non plus là, que les deux jeunes filles ont été retrouvées théoriquement sur un terrain privé. Donc près du ruisseau Deer Creek, mais quand même sur un terrain qui appartient à quelqu'un, là. Donc, il y aura plusieurs mandats de perquisition rapportés au cours de la semaine pour fouiller des propriétés et des terrains près de la zone où ils ont été retrouvés. Donc, ça n'aide pas à calmer la paranoïa au sein du village. Le dimanche 19 février, près d'une semaine après la fameuse randonnée fatale, l'enquête va prendre un autre tournant. L'homme que l'on voit sur les photos est définitivement recherché comme suspect principal. On va aussi diffuser un portrait robot. Et là, je vais essayer de vous le décrire le mieux possible. Donc, ils vont revenir avec la fameuse photo de l'homme marchant sur le pont. Donc, on le voit clairement là avec sa casquette, son manteau et tout ça. Et puis, le portrait robot nous démontre que justement, il semble avoir une genre de barbe, là, un gasket là, ou un beigne du moins, là, une moustache et une petite barbe de menton, mais pas de barbe sur les joues. Il semble un peu justement, ça semble être une barbe d'une semaine, peut-être. On voit un genre de capuche d'un gilet. Le dessin est vraiment en noir et blanc, donc il n'y a pas de couleur. Il semble avoir un gros nez avec des yeux quand même écartés. Par contre, le dessin semble, il semble plus jeune sur le portrait robot que sur la photo, je crois, on dirait.
Oui, c'est vrai.
Il est décrit comme un homme de race blanche mesurant entre 168 cm et 178 cm et avec un poids d'environ 100 kg, entre 100 et 110 kg environ, avec les cheveux brun roux. Donc, c'est un portrait qui va être diffusé là, très largement auprès de la population de Delphi et même au-delà de ce village-là, même de l'Indiana. Et là, ben, comme je le disais tout à l'heure, il devient compliqué d'établir la chronologie des faits, car tout semble être arrivé assez rapidement.
Ouais.
Mais il y a quand même des témoins qui auraient aperçu cet homme marcher sur la traque de chemin de fer et qui auraient aperçu des choses là, cet après-midi-là. Décidément, là, il y avait quand même beaucoup de gens sur le chemin de fer ce jour-là. Une dame du nom de Cheyenne affirme aux enquêteurs être passée sur le pont avec des amis et avoir pris une photo vers 2h45 cet après-midi-là. Donc, à ce moment-là, elle n'aurait rien vu ni rien entendu. Donc, on se rappelle que les filles sont arrivées à cet endroit-là vers 1h45. Ouais. Donc, une heure plus tard, ça semblait être le calme. Il ne semblait avoir personne sur le chemin de fer. Puis, il faut le dire, le chemin de fer, il est vraiment droit. Et c'est un pont où, comme je vous le disais, on peut pas sauter en bas. Là, on peut pas sortir du chemin de fer facilement puis aller dans le boisé. Il faut vraiment attendre qu'il y ait une sortie parce que c'est surélevé. Et lorsqu'on est sur le chemin de fer, on voit là, sérieux, là, des kilomètres devant et des kilomètres derrière parce que c'est très droit, très peu sillonnant. Là. Donc, c'est assez simple de savoir s'il y a quelqu'un au loin, quelqu'un derrière nous ou même sur les côtés. Faut pas oublier qu'il y a plus de feuilles dans les arbres, donc les boisés, c'est facile de distinguer ce qu'il y a dans la forêt. Mm-hmm. Là, on pourrait apercevoir un animal à plusieurs mètres au loin. Et cette femme-là, en fait, ainsi que ses amis, à 2h45, n'aurait rien vu ni rien entendu. Un autre homme qu'on appellera l'homme à la chemise de flanelle, flannel shirt guy, selon Reddit, aurait, lui, entendu un couple qui s'engueulait sous le pont dans le même après-midi. Donc, cet homme-là affirme être marché sur le pont, n'avoir rien vu de suspect, mais d'avoir entendu un couple près de la rivière, sous le pont, qui était en train de s'engueuler. Donc, c'est tout ce qu'on sait pour l'instant. Est-ce que les deux événements sont liés? Peut-être. Peut-être que oui, peut-être que non. On le sait pas. Le coroner, en fait, même si on en sait très peu de cette autopsie, va déclarer que tout était terminé à 3h30, qu'à cette heure précise, là, le crime était complété. Donc, ça réduit vraiment le temps le temps laissé pour le crime. C'est quand même, moi, je suis bluffé. On va revenir sur le timeline tout à l'heure parce que c'est pas très clair. Là. Il y a une question qui persiste malgré tout. D'où viennent les photos de l'homme sur le pont? Car jamais je croirais qu'il y a des caméras de surveillance sur un pont de train abandonné.
Non, je pense pas.
Et puis, où, justement, où est-ce qu'ils sont allés chercher ces preuves-là? Là?
Le 20 février, il y a une chasse à l'homme dans tout l'Indiana qui est lancée pour trouver ce fameux homme marchant sur le chemin de fer. Il précise aussi qu'il ne faut pas commencer à suspecter tout le monde, puisqu'il s'agit d'une petite communauté.
Évidemment.
Comme on vous disait tout à l'heure. Le 22 février, d'autres traces numériques refont surface encore plus inquiétantes. Il semblerait que les enquêteurs aient retrouvé le téléphone cellulaire de Liberty. Un enregistrement audio s'y retrouve et il y a une petite partie qui va être diffusée au public. Sur l'enregistrement, on entend le présumé meurtrier dire aux filles de descendre la côte, down the hill. Selon les enquêteurs, elle a réussi à l'enregistrer lorsqu'il approchait du Monon High Bridge, justement. On vous le fait jouer. Donc, comme vous pouvez entendre, là, il y avait une petite boucle.
Parce qu'on fait une boucle.
Pour le répéter, parce que ça va très, très vite. Down the hill. Mm-hmm. Tu l'entends. T'entends comme ça. Même la première fois, je saisissais moins bien. Bref, un peu comme tu disais, ils ont beaucoup de traces numériques. Est-ce que la petite fille a seulement enregistré ce petit bout-là? J'en doute, parce qu'il me semble qu'ils ont plusieurs enregistrements. Est-ce que c'est le seul moment où ils parlaient? Je trouve ça court. Le petit
Vraiment.
Puis c'est tellement court, c'est dur de reconnaître la voix.
C'est une seconde environ, vous l'avez entendu. On a l'impression qu'ils ont sorti cet extrait-là juste pour qu'on puisse peut-être identifier la voix de la personne.
Oui.
Est-ce qu'on reconnaît cette voix-là? Mais ça nous en dit très peu sur, sur l'identité de cette personne-là, ni même sur le crime. Mais ça semble indiquer, lorsqu'il dit « down the hill », peut-être que justement, il leur indique de descendre la pente.
Ouais.
Et s'il y a une pente, c'est que justement, je reviens sur le pont.
Oui.
Le pont qui est surélevé, qui est sur des billots de bois, en fait, sur des immenses poteaux. Donc, pour descendre le hill, la pente, il faut attendre que le pont soit rendu à oui. sa fin, au niveau du sol. Et c'est probablement le près là, de la rivière Deer Creek que justement le pont s'arrête, qui leur aurait demandé de descendre la pente.
Oui, oui,
c'est,
oui.
c'est ce que je vois là.
Ça indiquerait qu'ils auraient sûrement coincé sur le pont. Entre du moins, les filles devaient être dans un impasse
mm-hmm.
à cet endroit-là. À ce moment-là, il y a une récompense de 41 000 $ qui est offerte à quiconque qui peut fournir de l'information sur l'homme sur le pont. Il y a des centaines d'indices qui vont et de pistes qui vont surgir de partout. Là. La police ont des lignes ouvertes et des choses comme ça. Et mm-hmm. l'information, les gens collaborent énormément. Ils ont beaucoup, beaucoup de pistes. Même la police, ça peut devenir difficile aux autorités de se retrouver malgré tout ça. Là,
ben oui, parfois, trop, c'est comme pas assez.
Exact. Revenons sur le cellulaire de Liberty qui a été retrouvé. Il y a certaines sources qui indiquent que les policiers ont saisi, comme je vous disais tantôt, 6 minutes d'enregistrement. Donc, il y en a même d'autres sources qui disent que c'est 40 minutes d'enregistrement et que peut-être même le meurtre, ben, ou les meurtres plutôt, auraient été enregistrés sur le téléphone. Il est donc assez possible de croire que la fameuse photo de l'homme sur le pont provient du téléphone de Liberty et non, comme on disait, d'une source externe ou d'une caméra de sécurité. Et même, ça viendrait d'un vidéo, la photo, étant donné que les deux photos, comme on vous disait, il y a un pas en avant, il y a une marche. Fait que donc, c'est sûrement pas deux photos de suite, là, c'est vraiment une séquence qu'ils ont dû décomposer. C'est assez étrange, comme on vous disait, que tout ce contenu-là, il y a seulement ça qui a été diffusé. Et même la seule image aussi, est-ce qu'ils ont pris d'autres types d'images? Est-ce qu'il y en avait même des... Je crois pas qu'il y en avait des plus clairs. Je vois pas pourquoi qu'ils n'auraient pas diffusé ça. Mais quand même, là, d'après moi, le reste des preuves que les autorités ont trouvées sur le téléphone est peut-être trop troublant ou pourrait peut-être nuire à l'enquête. Mais il y a des éléments qu'on n'a pas du tout, puis j'arrive pas à comprendre pourquoi.
Mm-hmm. Non, c'est pas évident. Ben, le secret entourant le téléphone cellulaire de Liberty est très très nébuleux. C'est-à-dire qu'on ouais. on sait pas non plus est-ce qu'il a été retrouvé sur les lieux du crime.
Exact.
Aucune idée. Est-ce qu'il a été retrouvé ailleurs? On le sait pas. Est-ce que c'est des images qui sont allées chercher dans le cloud? Peut-être même pas sur le téléphone. Mm-hmm. On a parlé de Snapchat tout à l'heure. Donc il y a vraiment tout un halo de mystère autour de cette trouvaille-là. Mais moi, je suis un peu d'accord avec toi, Seb, quand tu parles de vidéo. J'ai l'impression que peut-être que les deux jeunes filles ont senti, ont eu un instinct de protection, puis ont senti que quelque chose de pas bien allait se passer, ouais. puis ils ont commencé à filmer. Mais moi, je me demande pourquoi, si on saisit l'homme qui marchait, pourquoi avoir sorti juste deux photos à un pas d'intervalle? Il me semble que même si la vidéo durait quelques secondes, ça aurait été plus pertinent de montrer une vidéo avec mm-hmm. l'homme en mouvement.
Exact.
Tu sais, peut-être que l'homme s'exprimait, peut-être mm-hmm. que quand quelqu'un marche, on peut identifier quelqu'un oui. hein, selon la
oui.
démarche
oui,
de quelqu'un.
Oui. Exact.
Donc, je suis surpris que même à ça, il n'ait pas sorti juste quelques secondes, ne serait-ce là, pour identifier cet homme-là de la vidéo.
Non, t'as bien raison là-dessus. Un peu comme dans Elisa Lam, que la police avait
oui.
sorti au moins la vidéo, même si elle a été éditée. Faut pas oublier aussi qu'il y a eu une autre photo que Liberty a publiée de Abby sur Snapchat un petit peu plus avant, en fait, autour de 2h07, le 14h07. Donc, un peu moins d'une demi-heure après le début de leur randonnée, là, mm-hmm. si on se fie à la timeline. Et sur cette photo-là, en fait, on voit...
On va vous la publier sur
oui,
notre site web.
Absolument. Abby, elle a l'air... Elle n'a pas l'air en détresse, là. Elle a l'air plutôt nonchalante, les mains dans les poches et elle marche. Ce qui est quand même assez particulier, par contre, elle est sur la traque de chemin de fer et on peut voir un peu ce qu'Émile décrivait, là, l'étendue de tout ça. Mais dans le fond, derrière elle, un peu plus loin quand même, on voit deux... on ne sait pas si c'est des arbres ou deux personnes. Je ne sais mm-hmm. pas si c'est un peu étrange. On dirait que quelqu'un... mais je suis pas certain là si c'est des ombrages ou des arbres, mais c'est un peu étrange. Mais bon, il y a des gens qui circulent là, c'est peut-être pas non plus suspicieux.
Oui, c'est vraiment une photo. C'est important qu'on l'analyse, cette photo-là, parce que c'est une des preuves les plus importantes de toute cette histoire-là. Donc, comme tu dis, on voit Abby qui marche en regardant vers le sol. Bon, je présume que justement, entre les planches de bois sur le pont, c'est le vide. Donc, elle devait regarder un peu où elle marchait.
Oui,
donc,
voilà.
Je sens rien de trop suspect là-dessus. Elle est clairement au-dessus de la rivière. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, le pont, même quand il est sur le sol, il est quand même assez haut en hauteur. Tandis que là, on voit clairement la rivière en bas, donc elle était possiblement à la fin du pont là, où elle a pris cette photo-là. C'est une belle photo. La plupart du temps, elle est publiée d'une résolution horizontale, alors que sur Snapchat, à l'origine, elle était vraiment verticale.
Oui.
Donc, ce qui est sorti dans les médias, c'est vraiment croppy. C'est une photo qui a été resizée. Et c'est vrai qu'au bout, du pont, lorsqu'on voit, là, il y a clairement deux formes noires. Là. Ça pourrait être... clairement deux personnes qui marchent ou même peut-être une personne. Je sais qu'il y a des gens qui ont refait ce trajet-là sur YouTube, qui ont refilmé, et il semblerait avoir un arbre là, qui est presque au milieu de la traque. On se rappelle que c'est une vieille traque de chemin de fer qui est plus entretenue, donc c'est possible qu'il y ait des arbres qui poussent au travers. Donc c'est aussi une hypothèse là, qu'en fait, c'est pas des personnes qu'on voit au loin, mais c'est bel et bien un arbre.
Ouais.
Mais vous nous direz ce que vous en pensez. Ça se peut aussi que ça soit quelqu'un. Mais ce qui est clair, c'est que cette photo-là a été prise à 2h07 parce que Snapchat garde justement les tags, les métadonnées, je crois.
Oui, exactement. Snapchat, il garde ça. Puis c'est la dernière photo vivante de Abby.
Oui, exactement. Puis ça nous indique que justement à 2h07, les deux filles étaient encore en vie, puis tout semblait bien aller. Là. On se rappelle qu'ils sont arrivés à 1h45 et que le coroner a dit que tout était terminé à 3h30.
Qui est une heure et quelques plus tard.
Mais Seb, reviens-nous un peu sur Snapchat en général. Là, comment ça fonctionne pour ceux qui sont peut-être moins familiers avec ce réseau-là?
Oui, le réseau Snapchat, qui est un réseau de photos éphémères, en fait. Puis si vous ne l'avez jamais utilisé, vous nous écoutez, vous l'avez jamais utilisé, faites-vous-en pas, parce que 85% de ses utilisateurs ont entre 13 et 34 ans. Et je vous dirais que même le 34 ans, c'est un petit peu plus bas, là, mais grosso modo, leur grosse tranche d'utilisateurs, c'est beaucoup les plus jeunes. C'est un peu la particularité de Snapchat à l'époque, c'était vraiment, ben encore aujourd'hui, c'était le premier à faire vraiment des photos éphémères, tout disparaissait. Et ce qui avait attiré les jeunes, il n'y avait pas de traces de ce qui s'échangeait, de ce qui s'échangeait là-dessus. Ça a été créé en 2011, ça fait quand même 7 ans, on a tendance à l'oublier. Et c'est eux qui ont inventé les fameuses stories là, qu'on voit sur Instagram. Ils ont un peu Instagram a un peu copié le concept de Snapchat, en fait. Et je vous fais une petite parenthèse, c'est une application qui est quand même 13 ans et plus. Donc, si vous avez des enfants en bas de 13 ans, puis ils vous ont fait à croire qu'ils ont le droit d'être sur l'application, si en bas de 13 ans, c'est faux. Là. Ils ont un petit peu berné, si c'est le cas, mais vous pouvez l'autoriser. Là. C'est pas ce que je veux en venir, mais je veux quand même vous le dire que c'est une application de 13 ans et plus. Et je ferme la parenthèse en vous disant qu'ils sont maintenant en bourse depuis 2017 sous le nom de Snap Inc. Donc, si vous voulez investir dans les réseaux sociaux, ça peut être une option.
Puis, on sait que quand on poste une photo, même si elle est éphémère, elle est quand même... Oui. Snapchat ont de l'information sur cette photo-là. Ils peuvent aider à retrouver des métadonnées au besoin. Donc, c'est pas vrai que tout disparaît après. Là.
Non, ben ça, en fait, la plupart des réseaux sociaux et même Facebook ont longtemps été incriminés. Même quand tu supprimes des photos sur la plateforme, ils gardent toujours des copies à quelque part. Là. Et je suis certain que Snapchat aussi, dans le fait que ça soit éphémère, c'est plus accessible aux utilisateurs, mais comme tu dis, c'est certain qu'ils gardent ça dans leur base de données. Même dans le monde d'aujourd'hui, d'après moi, j'ai l'impression qu'il y a même une intention quasiment judiciaire, là, parce qu'il y a eu plusieurs.
Oui.
Il y a même un autre cas qu'on va vous reparler un peu plus tard dans la saison, qu'il y a des choses qui se déroulent sur Snapchat aussi, là, et qui ont pu justement aller chercher des preuves grâce à ça. Heureusement, donc, qu'ils gardent les photos malgré tout. On revient à notre histoire, cette photo, ce snap, en fait, de Snapchat, même si elle semble inoffensive, elle est cruciale dans l'établissement du cours des événements à cause de l'heure. Comment ont-ils trouvé le téléphone, un peu comme on se le posait, là, les questions, en fait? Il semblerait que le téléphone ait envoyé encore du signal dans le village vers 17h30. Donc, c'est environ 2 heures après que le crime se soit fait. Donc, c'est assez particulier avec le... Je sais pas si c'est le lieu où ils ont trouvé le corps versus le téléphone, mais la traîne est quand même dans le village aussi. Mais on n'a pas de précision, tu sais, sur le Ils disent dans le village, mais on ne sait pas exactement où, en fait, où le téléphone était situé lorsqu'il envoyait le signal. Donc, ça aussi, je trouve que c'est une zone un peu nébuleuse. Là.
Oui.
Parce que je me demande, est-ce que le ravisseur ou le meurtrier a pris les téléphones avec lui? Il a peut-être échappé un. On n'a pas retrouvé l'autre téléphone non plus.
Non.
Celui de Abby, elle en avait un, on ne l'a pas retrouvé. En tout cas, du moins, ça n'a pas été dit. Donc, tant de questions sans réponse qui font vraiment ressurgir plusieurs rumeurs.
Effectivement, Seb, quand peu d'informations est révélée, tout le contexte est prétexte à démarrer la machine à rumeurs. On va y arriver très bientôt, mais tout d'abord, revenons un peu sur les événements. Le 22 février, lors de la conférence de presse où l'extrait sonore, le Down the Hill, est révélé, les policiers vont saluer le travail héroïque de Liberty qui, selon eux, a fait un acte de bravoure extrême en activant l'enregistrement sur son téléphone de ce qui pourrait être un crime en devenir. Mmh. Et c'est vrai, là, ça...
Ah
ça
oui, bien sûr.
Et on sait, peut-être qu'au final, ça l'a pas aidé. Peut-être que le ravisseur s'en est rendu compte, on sait pas. Mais elle a quand même eu ce réflexe-là, là. Ce qui veut dire que les deux filles avaient senti le mal venir là, quand ils ont vu l'homme du pont arriver. Là. C'est terrifiant.
Ouais.
Une ligne téléphonique permanente a été activée et plus de 6000 babillards publicitaires électroniques dans 46 États américains ont diffusé le portrait robot de l'homme recherché.
Quand même.
Malgré les milliers de pistes que les policiers reçoivent, aucun véritable progrès est fait au cours des premières semaines. Entre-temps, les résidents de Delphi vont installer des ampoules orange sur leurs portes de maison en symbole de Liberty et Abby et aussi afin d'éclairer Delphi. Donc, c'est un peu ça leur, ouais. le titre de la campagne. Au fil des semaines, des entreprises locales, des citoyens, mais aussi des vedettes de sport vont faire monter la récompense à plus de 200 000 $ pour quiconque offre de l'information sur le suspect. Il s'agit d'une des plus grandes chasses à l'homme des dernières années. Un comité s'est aussi formé afin de sécuriser les sentiers de la Delphi Historic Trail. Et avec plus de panneaux de signalement. On vous l'avait dit tout à l'heure qu'il y avait un petit problème. Là, donc là, il y a un peu plus de signalement. Et là, il y a plusieurs rumeurs qui vont ressurgir concernant les circonstances de leur mort. Donc, c'est vraiment à prendre avec un grain de sel. Mais il faut pas oublier que dans les recherches, il y a plein de gens, il y a plein de policiers qui ont participé à ça, il y a les enquêteurs aussi, mais il y a plein de volontaires, de résidents, puis de gens de services d'urgence. Mm-hmm. Puis ces gens-là, bien, il y en a qui prétendent avoir vu des choses. Donc, je vais faire le tour de quelques rumeurs que vous allez voir sont plutôt troublantes sur tout ça, en fait, là. De un, il y a eu des funérailles quelques jours plus tard à la suite de tout ça, où les gens ont été invités. Et aux funérailles, il semblerait que les deux filles portaient des foulards au cou, ce qui était inhabituel pour elles, ce qui laisse croire que leur gorge aurait peut-être été tranchée. Aussi, autre rumeur, apparemment qu'elles auraient été assaillies sexuellement ou du moins mutilées, selon des témoins de la scène. Leur corps aurait été disposé d'une manière bizarre, comme je le disais, laissant croire à un culte ou à un rituel, selon des témoins de la recherche.
Ça, c'est weird.
Donc, j'ai aucun détail sur comment elles étaient disposées, mais est-ce qu'elles étaient disposées dans une certaine forme, dans une certaine position? C'est dur à dire. Donc, est-ce que vraiment, c'était peut-être du maquillage aussi? Peut-être que le meurtrier a maquillé ça pour que ça ait l'air d'un rituel satanique ou quelque chose.
Oui.
Mais il semblerait avoir eu une certaine, en plus de cela, une certaine manipulation au niveau des parties génitales des deux filles. Donc, on ne confirme pas de viol ou quoi que ce soit. Et tout ça, là, les autorités n'ont jamais parlé de toutes les informations dont on discute. Là, c'est vraiment juste des rumeurs. Mais il y a des gens qui disent qu'il y aurait eu une mutilation au niveau des parties génitales des deux filles. On l'a dit tout à l'heure, selon le coroner, tout serait terminé à 15h30. Il est possible aussi que Abby ait survécu plus longtemps, qu'elle aurait peut-être même tenté de s'enfuir et qu'elle serait même décédée en route dans l'ambulance ou encore dans la forêt d'hypothermie. Donc après avoir survécu au crime. Donc ça veut pas dire qu'elle a été épargnée, mais peut-être qu'elle a été laissée pour morte sans qu'elle le soit vraiment. Mais encore une fois, c'est des rumeurs. Ce qu'on sait, c'est que les deux filles ont été retrouvées au même endroit.
Oui,
mais c'est peut-être possible que Abby était encore en vie. On ne sait jamais, on peut survivre longtemps.
Hein? Oui, 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 exact.
Une autre rumeur qui est assez étrange, là, c'est difficile de le croire, mais c'est pour ça qu'on va vraiment la prendre avec un grain de sel, celle-là. Mais il y aurait eu apparemment un autre ado qui était amoureux d'Abby, qui aurait été suspecté dans cette histoire-là. Apparemment même que Abby serait enceinte de lui au moment des événements et que lui aurait insisté pour qu'elle se fasse avorter. Mais il n'y aurait aucune suite concrète à cette piste-là. Donc, quand même assez étrange. Après, quand on voit la photo du suspect, est-ce que ça peut être en lien avec un ado? Puis de toute façon, est-ce que tu peux vraiment assassiner quelqu'un pour cette raison-là, puis assassiner son ami?
Ouais, c'est ça.
C'est un peu tiré par les cheveux, je dois dire, mais c'est une autre rumeur qui a circulé là, dans le village de Delphi et sur Reddit, entre autres. Une autre rumeur, c'est que, est-ce que ce serait possible qu'il y ait eu deux tueurs? On se revient à la chicane sur le pont qui a été entendue par l'homme à la chemise de flanelle. Mm-hmm. Est-ce que ce serait possible qu'en fait, il n'y ait pas juste un criminel, mais bien deux, puis que c'était peut-être même un couple? Hein? On ne sait pas. Mmh, c'est peut-être
vrai.
Pas deux hommes, c'est peut-être un homme et une femme. Donc, encore une fois, ça soulève encore un doute dans la machine à rumeurs.
Mais moi, par rapport à la chicane, je me questionnais, est-ce que c'était les filles qui criaient ou quoi que ce soit et que le tueur leur disait, criait peut-être de se taire ou quoi que ce soit? T'sais, est-ce que ça peut être ça?
Oui, en lien avec le crime, par exemple.
Avec le crime, oui. Je me demandais si justement la chicane qu'il a entendue, il les a jamais vus visuellement. Puis je me demandais le fait qu'il a dit que c'était un couple, est-ce que c'est parce que c'était une voix de fille et d'homme?
C'est vrai.
Justement, avec les deux petites filles, et c'était en tout cas, on suppose que c'est un homme. Moi aussi, là-dessus, je me demande s'il n'a pas entendu justement plutôt une partie du crime ou du moins les filles se débattre. Là.
C'est possible. C'est tout à fait possible, Seb. Une autre rumeur, en fait, il y a un YouTuber là, du nom de Grey Hughes qui, lui, a fait énormément de recherches sur Internet et il a même demandé à des résidents de Delphi d'aller filmer, il est rentré en contact avec la famille. Lui, il revient un peu sur la ligne du temps, là, sur la chronologie des événements, parce que selon les discussions que lui a eues avec les membres de la famille, il y a des choses qui clochent encore une fois dans la chronologie des événements. Surtout en ce qui a trait là, à toute cette randonnée des deux jeunes filles au moment où ils devaient arriver et au moment où des membres de la famille devaient venir le chercher. Donc lui, ce qu'il nous dit, ce Grey Hughes, il nous dit que justement Abby et Libby ont décidé d'aller au pont aux alentours de midi, mais qu'ils se sont fait donner le droit par leurs parents d'y aller seulement si ils étaient accompagnés avec justement un transport pour l'aller et pour le retour. Donc, ils ont décidé de partir vers 1h30 et ils sont arrivés vers 1h45. Ils se sont laissés déposer près d'un parking qui les a amenés jusqu'au pont. Et là, on sait que la photo de Abby sur le pont prise par Liberty a été fait à 2h07. Et par la suite, en fait, le père de Libby, de Liberty, qui s'appelle Derek, lui a appelé deux fois sur le téléphone de Liberty cet après-midi-là à 3h11 et 3h13. Il n'a pas eu de réponse. Donc ça, c'est déjà une info que j'ignorais puis qui n'avait pas été révélée par les enquêteurs. Donc ça restreint encore plus le temps pour faire le crime, en fait. Donc, c'est assez troublant. 3h11, 3h13, il n'y a pas de réponse. Et on se rappelle que le téléphone pignait encore à 5h30, selon ce que tu nous as dit tout à l'heure, Seb. Donc, c'est qu'à quelque part, il n'y a personne qui... Le téléphone était actif, mais personne ne répondait. Donc, est-ce que le crime était déjà commis? C'est possible.
Ben, c'est proche de l'heure finale déclarée par les autorités.
Après ça, en fait, à 3h30, c'est là que Derek serait venu sur place puis il aurait commencé à faire lui-même des recherches.
Okay.
Donc, il est allé sur le pont, il a fait le tour et puis le reste de la famille est arrivé aux alentours de 4h pour commencer les recherches. Et puis par la suite, en fait, le grand-père de Liberty a été lui aussi appelé vers 4h et ils ont finalement appelé les autorités vers 5h20. Donc, ça restreint encore plus le temps, puis ça nous montre que justement, il y avait déjà plus de réponses sur les cellulaires à partir de 3h11, 3h13. Donc, soit le meurtrier était déjà parti avec les cellulaires, ou soit les deux filles étaient plus en mesure de répondre au téléphone. Donc, si on revient un peu, ce YouTuber-là, en fait, va aussi passer beaucoup de temps à analyser la scène, donc cette fameuse, ce fameux sentier. Puis, ce qui est troublant lorsqu'on regarde le trajet qu'elles ont pris pour faire cette randonnée-là, en fait, elles ont marché, on s'entend, là, entre le moment où elles ont pris la photo et l'endroit où les corps ont été retrouvés, c'est un demi-mille environ, donc 0,8 km, tu le disais tout à l'heure, Seb. C'est quand même pas si facile, mais c'est quand même long marcher 0,8 km dans le bois, en passant sur un pont comme ça. Donc, ça prend au moins, je dirais, 15-20 minutes, ouais, peut-être.
Ouais. Ben, ouais, 10-15 au moins, là, facile.
Oui, c'est
ouais.
ça, à la marche comme ça. Donc, ouais. Moi, j'ai de la misère à croire. Mettons que la photo a été prise à 2h07. Ça laisse peu de temps pour que, justement, il fasse la rencontre de l'homme, parce que, vraiment, sur la photo de Abby, il semble pas avoir d'homme, ou du moins, il y en a peut-être au bout, là, les deux ombres, mm-hmm. mais c'est quand même très loin, là. C'est presque un mille plus ouais. loin. Et est-ce que vraiment la personne aurait eu le temps de faire leur rencontre de les amener là où les corps ont été retrouvés, donc qui implique de traverser un ruisseau oui. et de faire tout ça en à peu près en moins d'une demi-heure? Merci. Parce que 3h11, 3h15, le père appelle Abby, il n'y a pas de réponse. Et encore, on se rappelle à 2h45, il y a une témoin qui est allée sur le pont, qui a pris des photos, qui n'a rien entendu, qui n'a rien vu. Donc, ça veut dire qu'en 2h07, à 2h07, tout allait bien. Et à 2h45, possiblement, tout était terminé. Et entre-temps, ben ils ont fait la rencontre de cette personne-là. Ils ont été amenés sur les lieux du crime, ils ont été exécutés, et puis personne n'a rien vu, rien entendu. Moi, ça me bluffe complètement.
Ah, moi aussi, en fait, puis même quand au niveau des rumeurs, quand on parle des rituels et tout ça, je me demande, tu sais, quand il y a eu le temps de faire ça aussi?
Ben oui.
Je comprends quelqu'un qui est peut-être préparé. C'est là que j'ai l'impression que c'était vraiment quelque chose de préparé et d'orchestré à cause du délai qui est tellement court, là, comme tu dis, c'est... Crème a tué deux personnes, je ne l'ai jamais fait, là, mais ça ne doit pas être si simple que ça non plus. Tu sais, je veux dire, c'est assez, c'est vraiment
ben troublant. Ben oui, c'est deux ados quand même sportifs.
Oui.
C'est pas juste une, c'est deux.
Oh, ils ont dû se défendre. Là.
Est-ce que ça se peut qu'ils aient tué ailleurs puis amenés là? Ben, c'est quand même du trouble amener quelqu'un sur dans le bois sur un demi-mille. Là. C'est...
Deux filles, deux
oui,
personnes.
Oui, c'est ça.
Là, deux ados, c'est lourd à transporter. Là.
Ben oui. Mais ce qui est clair lorsqu'on regarde les vidéos là, que ce YouTuber-là, Grey Hughes, a fait, c'est que l'homme en question ou les hommes ou le couple ou les tueurs ont vraiment pris en trappe les deux filles. Parce que lorsqu'on marche sur ce pont-là, en fait, c'est impossible d'en sortir. Comme j'ai dit, on peut pas sauter sur le côté, on peut pas bifurquer dans le bois. Donc, il est possible que les filles aient une première fois rencontré l'homme lorsqu'ils ont rejoint le sentier, quand ils se sont fait déposer. Mm-hmm. Donc, une première fois, ils auraient peut-être remarqué l'homme. Et par la suite, ben, les filles auraient continué leur chemin, ils auraient traversé le pont, ils auraient pris une photo de l'autre côté. Mm-hmm. Et c'est là que l'homme aurait pu rusher, là, et commencer à marcher très vite sur le pont pour les rattraper. Et une fois qu'il les rattrape, les deux filles peuvent rien faire à part courir dans la direction inverse. Ouais. Donc, peut-être qu'il les a approchées innocemment, en fait, pour leur demander n'importe quoi, peut-être de l'argent ou une
pas
question.
Leur faire peur, donc.
Oui, et que c'est à partir de ce moment-là qu'il les aurait menacées. T'sais. Puis moi, en fait... on arrivera aux théories tout à l'heure, mais c'est clair qu'il devait avoir une arme ou même un pistolet, là, possiblement, pour exercer ce contrôle-là auprès d'elle. Parce que c'est facile quand même de perdre le contrôle de deux... Dans ce cas-là, c'est deux filles, mais pour une seule personne, de tenter de contrôler deux personnes, ça peut être compliqué. Là.
Oui, vraiment. Là, deux adolescentes là, sont capables de courir, sont capables de le frapper. C'est vrai qu'il y a quelque chose d'étrange. Il y avait un taser? Là, tu sais, j'ai la bonne théorie, mais tu sais, y a-tu un autre outil qu'il a pu utiliser à la limite, ou même du formol, ou tu sais, quelque chose, les endormir rapidement ou quoi que ce soit pour éviter qu'elles se débattent? Hein? On le sait pas non plus. Là.
Exactement. Donc, mais Seb, en fait, quels sont les potentiels suspects? Parce qu'il y en a quand même, plusieurs, quand même des gens qui ont été investigués. Oui. En fait, je pense qu'on a fait le tour de la chronologie des événements. Oui. Je pense qu'on a fait le tour de ce qu'on sait, du moins des faits les plus importants. Puis maintenant, on peut commencer à analyser un peu quels sont les suspects dans cette histoire-là, puis quelles sont les théories possibles.
Un des potentiels suspects, mon cher Émile, c'est Ron Logan. Il a été interrogé le 16 mars de la même année du meurtre. Il est interrogé par les policiers puisque les corps ont été retrouvés dans le bois sur sa propriété. On vous rappelle que c'était les corps ont été retrouvés sur une propriété privée.
Ouais.
Il est aussi en probation en raison d'une conduite avec faculté affaiblie. Son alibi le jour du meurtre, c'est qu'il était parti dans une ville avoisinante pour acheter des poissons tropicaux. C'est assez rigolo, ça. Seul problème, il n'a pas le droit de conduire. Et apparemment qu'il a été aperçu dans un bar le jour même du meurtre, alors qu'il ne devait pas boire non plus, ce qui explique pourquoi il n'était pas trop collaborateur avec les policiers. Malgré tout, il n'est pas considéré comme un suspect dans l'enquête, il n'est pas l'homme sur le pont.
Non, évidemment que les policiers ont fait plusieurs perquisitions dans cette région-là.
Bien sûr,
donc,
ouais, ouais.
C'est une petite municipalité. Donc, plusieurs personnes comme ça ont été interrogées. Donc, dans ce cas-là, Ron Logan n'était pas très collaborateur, mais il avait ses raisons, là.
Oui, absolument. Puis je trouve ça drôle, l'excuse des poissons tropicaux. Je me demande si c'est vrai ou non qu'il en a acheté, que peut-être dans les jours,
bonne question.
Les jours suivants. Il y a aussi la grange de la famille Mears, qui est une famille qui habite juste en face de chez Ron Logan, qui a aussi été interrogé. Et leur grange a aussi été fouillée, mais ils ont tout de suite été écartés, bien sûr, de la liste des suspects. Il n'y a aucun résident du village de Delphi qui semble correspondre à la description là, dans ce que les gens connaissent, là, étant donné que tout le monde connaît un peu tout le monde. Il y a aussi un itinérant dont on ignore le nom. Il y a des témoins qui ont rapporté l'avoir vu être frustré de ne pas avoir reçu de monnaie lorsqu'il quémandait près du fameux pont. Il avait un ton confrontationnel. L'homme à la chemise de flanelle qu'on vous a parlé tout à l'heure dans les témoins aurait statué avoir entendu, comme on vous dit, un couple qui s'engueulait sous le pont ce jour-là. Est-ce qu'il pourrait y avoir un couple qui vivait sous le pont?
Oui,
par exemple,
couple
un couple itinérant, exact. Donc, par rapport à ça, ça pourrait faire du sens. Il y a des gens aussi qui auraient rapporté des entrées par infraction dans les semaines avant le meurtre dans le village de Delphi. Ça aussi, c'est un phénomène qui était plutôt rare. Ça peut soulever aussi des doutes par rapport à ça.
Oui, parce que si personne dans la municipalité correspond à la description de l'homme sur le pont, c'est fort probable que c'était quelqu'un de passage.
Oui.
Donc peut-être un voyageur, peut-être un itinérant, on ne sait pas. Là. Mais il y a d'autres suspects. Hein.
Oui. Il y a un suspect qui s'appelle Daniel Nations. En fait, lui a été décrit par la police comme une personne d'intérêt dans ce dossier-là, en fait, parce qu'il a vécu lui aussi dans l'Indiana. Il a été arrêté dans le Colorado et arrêté par la police pour avoir menacé au moins une personne avec une hachette dans la ville de Monument au Colorado en septembre 2017. On ne sait pas pourquoi les autorités l'ont déclaré comme une personne d'intérêt, mais il l'avait vraiment sous l'œil. Il a même aussi plaidé coupable pour avoir menacé, possédé une arme dans une autre histoire. Il a été condamné à 3 ans de probation sous surveillance. Mais finalement, il a été écarté. Mais la raison pour laquelle on vous en parle, il était vraiment dans les à cette époque-là, quand le dossier est arrivé, lorsqu'il était mentionné au public, il y avait plusieurs articles sur lui, puis il le considérait vraiment comme quelqu'un d'important, mais on sait pas pourquoi. Je veux dire, c'est pas parce que t'as déjà eu une condamnation, parce qu'il y a pas de crime sexuel, il y a pas d'enlèvement.
Mais il était une personne d'intérêt dans une autre histoire de meurtre, en fait, Daniel Nations.
Okay.
Puis ce qui est assez troublant, c'est que il ressemble énormément au portrait robot qui a été diffusé.
Oui, oui, effectivement.
Mais
ouais.
Beaucoup plus jeune, parce que Daniel Nations, je crois qu'il avait 30 ans ou 34 ans au moment des faits.
Mm-hmm.
Donc, plus jeune que ce que les policiers supposaient, là, qui penchait plus vers un homme d'une soixantaine d'années. Mais il a vraiment le gros nez avec les yeux un peu décollés.
Ouais,
il porte
okay,
même le même type de barbe. Donc, c'est pour ça qu'il y avait eu des liens à cette époque-là, le fait avec cet homme-là.
Ah, je vois. Et aussi, pour essayer d'avoir un petit peu plus de pistes, quelques semaines après le meurtre, en fait, ils ont fait le Dr. Phil Show, qui est une émission américaine un peu populiste, de psychologie un peu populiste, je peux dire ça. Et pour faire aider à avancer le dossier, c'est quand même écouté à travers toute l'Amérique. Au moment où la diffusion d'épisodes, il y avait, avant que ça soit diffusé, il y avait entre 3 et 5 indices par jour. Et quand il y a eu la diffusion d'épisodes, ça s'est tombé à 200, 300, là, donc pendant quelques jours. Donc, ça l'a beaucoup aidé à essayer de recueillir des indices. On ne sait pas si ça les a amenés à quelque part, mais quand même, ils ont tenté d'aller... au moins d'utiliser un peu une notoriété publique pour faire avancer le dossier.
Mm-hmm.
de ça. Il ne faut pas oublier non plus que le FBI a été appelé à intervenir dans le meurtre en raison de la manière justement dont les corps ont été retrouvés. Donc, ce qui nous amène à se questionner, à savoir est-ce que c'est possible que ça soit un tueur en série? Parce que le FBI, généralement, il s'occupe pas des dossiers locaux, même quand c'est des meurtres, là, sauf justement si... je sais pas c'est quoi la ligne là qui fait...
Ouais, c'est lorsqu'un cas peut impliquer plusieurs États.
Oui, c'est ça. Oui.
Donc, c'est peut-être... étant donné que là, le FBI a été appelé, on a, encore une fois, c'est une genre de fuite qui a confirmé que la raison, c'était la disposition, la façon dont les corps étaient disposés. Donc, est-ce que c'est... une disposition qui fait penser à un crime commis dans un autre État, on le sait pas, mais tu sais, tout ça fait en sorte que c'est la raison pour laquelle le FBI a été mené, a été amené dans l'enquête.
OK, c'est vrai que ça soulève des questions. En 2018, il y a un peu d'espoir qui est apparu dans le dossier, car il y a un cold case qui était similaire, qui est arrivé en Indiana. Il y a une petite fillette de 8 ans du nom de April Tinsley, qui a été violée et tuée le 1er avril 88 en Indiana, comme je vous disais. Eh bien, en juillet 2018, cet été, enfin, les autorités ont arrêté John D. Miller, 59 ans, qui habitait à Grabrill, qui est une autre municipalité de l'Indiana, pour le meurtre et le viol de la petite fille, qui s'était déroulé 30 ans plus tôt. Il a été arrêté, encore une fois, à cause d'une correspondance d'ADN qu'à l'époque, les policiers avaient trouvée dans les condons qu'ils avaient utilisés. Et même, ils ont trouvé sur sa grange, en l'arrêtant, il y avait des notes dans sa poubelle, mais sur sa grange, il y avait gravé, il s'était incriminé, il a écrit vraiment « J'ai tué April Mary Tinsley ». Il y a même, il dit qu'elle a 8 ans, puis il répète « Je suis le tueur » ou « C'est pas très clair » ou « Je vais la tuer », quelque chose comme ça. Et ça l'a incriminé en plus de l'ADN. Il a jamais avoué, par contre, être en lien avec le cas d'Abigail et de Libby. Par contre, on est toujours en attente de son procès et il risque même 100 ans de prison. Une petite parenthèse aussi, fait assez particulier, une drôle de coïncidence, le jour de l'arrestation de cet homme-là, Discovery, qui ont une série qui s'appelle Investigation, a diffusé un épisode sur le cas de April, la même journée qu'il a été arrêté. Drôle de correspondance, mais où est-ce que je vais en venir? Enfin, étant donné que les deux cas sont quand même similaires et ont lieu dans l'Indiana, les enquêteurs de Abigail et de Liberty travaillent en collaboration avec ces enquêteurs-là pour les aider à faire avancer le dossier.
Ouais.
Étant donné qu'ils peuvent sûrement s'aider là-dessus, mais il y a pas de la police dit qu'il y a pas de lien entre les deux actuellement. Ils veulent pas émettre de lien entre les deux coupables. Les autorités disent avoir reçu plus de 30 000 indices dans tout le dossier depuis le temps. C'est quand même, imagine compiler ça, ça me semble assez impressionnant.
Et des fois, je me dis que ça doit pas toujours aider l'enquête pertinemment, parce que faire le tri dans tout ça, dans ces 30 000 pistes-là, c'est pas évident, mais c'est aussi ce qui arrive quand on placarde les autoroutes de photos, de portraits robots et tout ça. Mais est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? C'est sûr que parmi ces 30 000-là, il y a peut-être que des indices qui nous permettent de retrouver le tueur. Oui. Sauf que le temps d'analyser tous ces indices-là peuvent sans doute retarder le processus d'enquête. Là.
Ça, c'est certain. Là. Le fait de passer à Dr. Phil, c'est sûr que tout ça a dû les noyer.
Ben oui. Ce qui nous amène un peu sur la piste des théories, là, mon cher Seb. Une de celles-là, en fait, je te dirais, parce que, évidemment, cette histoire-là a eu énormément de traction sur Reddit et sur les web sleuths de ce monde, sur les sites Internet en général. Vous pouvez aller consulter la section Reddit des Delphi Murders assez facilement sur Reddit. Il y a plein de discussions. Et ce qui est très intéressant, en fait, c'est qu'il y a un enquêteur retraité qui a donné un peu son point de vue sur cette histoire-là. Et selon lui, je pense que ça a fait du sens aussi, la scène, selon lui, devrait être pleine d'ADN. Parce que c'est souvent ce qui arrive, en fait, lorsque tu fais un meurtre dans les bois et que tu t'as à trimballer ou à disposer des corps. On le sait, dans le bois, tu vas pas... passer le sol à l'eau de Javel ou commencer à laver les arbres et tout ça. Donc, généralement, les scènes de crime dans la forêt laissent beaucoup d'indices et beaucoup de traces. Donc, lui, il part en disant que les policiers ont sans doute une tonne d'ADN de cet homme-là. Et la raison pour laquelle il garde autant d'informations, ben c'est justement parce que la scène de crime devait être tellement spécifique que seul le coupable doit avoir des détails sur la scène de crime. Ouais. Donc, c'est souvent une des raisons pour laquelle ils ne vont pas décrire la scène de crime, parce que justement, ça peut faire en sorte que n'importe qui débarque avec des faux indices. Mais là, dans ce cas-ci, ben seulement le meurtrier doit connaître ces détails-là. Donc, selon lui, en fait, les policiers vont simplement attendre qu'une entrée d'ADN soit faite dans une base de données, comme c'est arrivé quelquefois dans les dernières années. On est un peu à cette époque-là. Là, il y a des crimes qui sont résolus, ouais, à cause qu'il y a des matchs d'ADN qui sont faits sur des banques de données, là. Entre autres, c'est arrivé dans le cas du Golden State Killer, hein, Joseph James DeAngelo, qui a été retrouvé grâce à ça. Donc, c'est un peu ce qu'on attend ici dans le cas des meurtres de Delphi, c'est qu'on suppose qu'il y a énormément d'ADN sur les lieux, oui, et qu'on attend simplement qu'il y ait un match dans la base de données. Et ce même enquêteur se demande pourquoi ils ne font pas tester l'ADN à travers les membres de la famille pour éliminer cette piste une fois pour toutes. Et c'est très vrai, hein? Ouais. Il a calculé que ça coûterait environ 6 000 $ aux contribuables, mais les autorités veulent pas aller dans ce sens, disant juste ne pas être équipés pour faire cela et que ça coûterait trop cher. Donc ça me semble une drôle de réponse. Peut-être que c'est une fausse réponse puis qu'ils ont leurs propres idées derrière ça.
Oui, effectivement, oui.
C'est pas évident, mais j'avoue que cette hypothèse-là, comme quoi ils ont sans doute tout plein d'ADN puis qu'ils attendent juste qu'il y ait un match, me semble quand même plausible.
Oui, 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 ben oui, puis c'est rendu le cas dans la majorité des crimes d'aujourd'hui. Ils font un peu tout ça, hein, ils déposent l'ADN qu'ils trouvent aux différents systèmes de bases de données d'ADN et ils attendent qu'il y ait un match.
Oui, exactement. Puis, en fait, ça nous amène à quoi penser de cette histoire-là? Moi, une des choses qui me trouble, Seb, c'est quel est le motif de ce crime-là? Parce que là, on a deux jeunes filles, deux adolescentes. Si on se dit que cet homme-là était peut-être un itinérant qui voulait de l'argent, je veux dire, même, tu sais, deux adolescentes de 13-14 ans, ils ont pas les poches remplies d'argent, là, tu sais.
Ben
puis
non,
si même, en plus, ils ont peut-être... ils avaient peut-être leur téléphone intelligent sur elle, ben ça sous-entend que l'homme les a peut-être pas volés, là. Ça, c'est sûr, c'est pas confirmé, mais pourquoi ne pas partir avec ça? T'sais, selon moi, l'argent semble pas être le motif, et le motif semble plus être au niveau de, je sais pas, la domination ou de la haine envers les femmes, ou même un fantasme sexuel ou un rituel. Je sais pas, toi, qu'est-ce que t'en penses de tout ça?
Non, je suis d'accord avec ce que tu dis. Moi, j'ai écarté le motif de l'argent, parce qu'il n'y aurait pas tout fait ça non plus, là. Ben, on n'a pas les détails, mais selon les rumeurs, là, placer les corps, si les victimes ont été mutilées et tout ça, voler de l'argent, même, t'es même pas obligé de tuer pour voler de l'argent,
non.
Là. Il aurait pu sauver, tout simplement. Donc ça, moi, je l'ai complètement écarté. Pour le motif en tant que tel, si on se fie aux rumeurs, j'ai vraiment l'impression que c'est un maniaque, là, tu sais, puis il a exercé un fantasme sexuel, selon moi. Le rituel, on dirait que j'y crois, mais j'y crois moins, parce que, il me semble, ça prend du temps aussi, placer les corps, les orchestrer, puis bon, c'est sûr que le portrait robot, on ne sait pas si c'est lui, mais je trouve pas qu'il a l'air d'un gars à rituel, c'est un peu... C'est pas basé sur grand-chose, qu'est-ce que je dis, mais je sais pas, il y a pas...
Ça serait attendu à voir un chanteur de black metal émerger avec de la peinture
oui,
dans le visage
peu,
et tout ça.
Oui, un peu plus, oui, c'est ça. Je trouve pas qu'il y a nécessairement... L'habit fait pas le moine, mais quand même. Donc, j'ai vraiment l'impression que c'est un tueur, peut-être en série, mais quelqu'un qui voulait s'adresser à des jeunes femmes. Ou peut-être que lui, c'est plus des plus jeunes, puis là, ça a donné que c'est des jeunes femmes. On le sait pas, mais moi, j'ai l'impression vraiment que ça tourne autour de ça.
Parce que dans les autres questions sans réponse, en fait, on se demande, est-ce que ce crime-là était planifié ou pas? Est-ce qu'il y avait une arme d'impliquer? Est-ce que c'est juste un seul homme ou c'était justement plus qu'un homme? C'était peut-être deux hommes ou même un couple? C'est difficile à dire. Moi, de mon côté, j'ai pas l'impression que c'était un crime qui était planifié de longue haleine.
Non, pas tant.
C'est-à-dire de planifier des jours à l'avance, mais j'ai l'impression que ça a été planifié au moment même. C'est-à-dire que l'homme a peut-être croisé les deux filles et c'est peut-être là qu'il s'est dit « Ok, ben, je vais les prendre en proie, je vais les suivre sur le pont, comme ça je vais les garder en trappe et par la suite, à l'aide d'une arme, je vais les amener où je veux, en fait. Peut-être qu'il y avait déjà un endroit de déterminer. Parce que ça laisse peu de temps, même pour un viol, ou pour un rituel, ou même pour mutiler des parties génitales, ça laisse très peu de temps. On parle d'un horizon de 15 à 30 minutes environ pour commettre le crime, ce qui laisse vraiment peu de temps. Puis il faut que cette personne-là s'enfuit aussi suite.
Par le même chemin, ou en tout cas, je ne sais pas s'il peut se sauver par les voies.
Ah, bien ça, c'est très contestable, Seb. tu m'amènes sur une autre piste, c'est-à-dire que là où les filles ont été retrouvées, près du ruisseau, lorsqu'on continue à marcher un petit peu au nord, on tombe dans un cimetière qui nous amène vers la route principale. Ah. Donc, plusieurs personnes supposent que le tueur ou les tueurs se seraient enfuis par le cimetière. Ils ne seraient pas retournés sur leur pas. Okay. S'ils étaient retournés sur leur pas, ils auraient possiblement croisé la dame Cheyenne qui a pris une photo et peut-être même l'homme à la chemise de flanelle. Donc, selon moi, c'est aussi ce qui est arrivé. Il a dû se sauver par le cimetière. Mais tout ça a l'apparence d'un crime extrêmement calculé, mais qui a l'air d'avoir été presque chanceux dans son crime.
Ben moi, avec ce que tu dis, je me pose la question, est-ce qu'il était au courant? Étant donné que c'est pas quelqu'un du village, est-ce qu'il est au courant qu'il y avait un après-midi de congé? Puis là, il s'est dit qu'il va avoir sûrement des enfants qui vont aller se promener là. Est-ce qu'il se dit qu'il allait avoir un certain bassin d'enfants? Il y a cette question-là aussi dans sa préméditation. Ouais. C'est pour ça, moi, de plus en plus, je crois au taser, dans le sens que pour les immobiliser facilement ou quoi que ce soit, c'est une bonne théorie, mais parce que les menacer avec une arme, je sais pas, peut-être, c'est vrai que ça fait peur, un gun, puis tu sais, un fusil, puis tu... Mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a peut-être un taser ou du formol ou quoi que ce soit qui était fait pour les endormir, ou du moins rapidement, s'il n'y a pas eu de cri. Il y a ça aussi, vu que ça circulait.
Ben oui.
Crème, faut t'es-tu vite? Peut-être que justement, les gorges tranchées, c'est sûr que là, tu cries moins une fois que tu as la gorge tranchée, fait que peut-être que ça y a commencé par ça pour justement éviter qu'elle crie.
Mais après, il faut quand même qu'il les amène sur une distance de près d'un kilomètre, ce qui est vraiment difficile. C'est pour ça que je pense que le taser pourrait être une bonne idée. En même temps, il y a des gens qui analysent la photo de l'homme qui marche et qui croient qu'il aurait un fanny pack, là, ou un sac banane, ou même un sac où on peut mettre un revolver. Moi, j'avoue que c'est tellement pixelisé, même après l'avoir regardé des centaines de fois, je ne vois pas encore de fusil dans cette photo-là, mais il y en a qui en voient, là, où des gens qui pourraient prétendre que c'était peut-être un chasseur aussi, puis qu'il y aurait peut-être sur lui un couteau de chasse. On s'entend qu'on est en dehors de la saison de la chasse, mais c'est peut-être quelqu'un qui braconnait à l'époque. Parce que moi, c'est essentiel que ça prend une arme... Je sais même pas si un couteau ferait le travail, parce que faut contrôler ces deux jeunes filles-là. Oui. Faut les empêcher de crier. Faut les empêcher de se sauver. Oui. Puis on se rappelle que les filles ont quand même enregistré tout ça, là. Donc, faut un outil de contrôle qui permet d'amener les deux filles sur une distance d'un kilomètre, là. Ce qui est pas évident, là. Sans qu'elles se débattent, sans qu'elles se sauvent, sans qu'elles crient. C'est pour ça que je penche, on dirait, vers la théorie du pistolet ou de l'arme à feu, ou de peut-être un couteau très convaincant, là, tu sais, ou peut-être qu'il en a blessé une pour faire une démonstration début. Mais c'est hallucinant. On dirait de plus en plus, je penche vers la théorie du tueur en série, Seb. C'est rare que dans un cas comme ça, tu sais, c'était même évoqué dans le cas de Maura Murray, que c'était peut-être un tueur en série. Oui. Bon, ça, il y a des légers doutes. Mais on dirait que dans ce cas-ci, je le pense parce que ça prend vraiment quelqu'un qui a le mal en lui, en fait, pour faire un crime comme ça, sans vraiment de motif, juste un crime, un crime pour l'amour de la violence, en fait, pour les avoir disposés dans une position qu'on sait pas trop, mais qui était très douteuse auprès des autorités. Donc, selon moi, on dirait que j'écarte pas cette hypothèse-là, puis je serais pas surpris, en fait, qu'il y ait un tueur en série qui match positif en ADN un jour, en fait.
Non, ça fait du sens, ce que tu dis, parce que c'est quelqu'un qui a de l'expérience, me semble.
Oui, aussi. Hein.
Parce que quelqu'un de bien impulsif, là, puis qui a une pulsion, puis il a toujours voulu, je sais pas, là, violer deux petites filles, puis là, il voit l'opportunité. Il me semble qu'il ne sera pas aussi calculé dans ses mouvements aussi. Il y a quand même une orchestration qui est... Mais c'est pas fait prendre non plus, là.
Non.
Dans un endroit qui est quand même achalandé. C'est quelqu'un c'est ça que je te dis, c'est quelqu'un qui a de l'expérience. Fait que ta théorie du tueur en série, j'y crois moi aussi de plus en plus, en fait, là. Et avec un fusil, parce que ma théorie du taser, quand j'y repense, ça tient pas parce qu'il faut qu'il marche. T'sais, ils ont marché, t'as raison. T'sais, moi, je le voyais comme tout de suite pour les neutraliser, mais...
Mais peut-être aussi, tu sais, mais...
Mais tout est possible, ou même à la fin aussi, là. Mais le fait que... Moi, c'est parce que c'est le fait qu'ils n'ont jamais crié que... Puis tu sais, s'ils avaient tiré du fusil, ça attire l'attention. C'est un genre de couteau à double tranchant. Je ne veux pas faire de mauvais jeu de mots, là.
Parce qu'en même temps, les filles ont senti qu'il y avait quelque chose qui clochait parce qu'ils l'ont filmé lorsqu'il était à une bonne distance d'elles. Fait que déjà, à ce moment-là, même à distance, ils sentaient qu'il y avait une situation inquiétante qui s'en venait. Donc, par la suite, comment il a fait pour les approcher, puis comment il a fait pour éventuellement les neutraliser, c'est toujours un mystère pour moi.
Pour moi aussi.
Ben écoute, Seb, je pense qu'on a fait le tour des informations qu'on sait à l'heure actuelle. Écoute, c'est un cas assez récent, on l'a déjà dit. Donc, il y a des chances qu'il y ait des développements au cours de la prochaine année. Évidemment, on va vous tenir au courant.
Ouais.
Si vous avez de l'information à partager à ce sujet-là, en fait, on va mettre le lien de leur groupe Facebook.
Oui.
Mais il y a un groupe Facebook consacré à la recherche de Abigail et Liberty de Delphi. Et si vous avez de l'information, n'hésitez pas à la partager là-bas. Il y a une ligne téléphonique aussi qui est disponible, que vous pouvez trouver assez facilement. Comment tu as trouvé ça, Seb, te plonger là-dedans?
Ben moi, je suis un peu traumatisé, en fait, de ça. Puis on dirait que vu qu'on n'a pas de coupable, puis qu'on n'a tellement pas de détails, c'est qu'on peut tellement s'en aller vers des scénarios, que j'aime pas les scénarios vers lesquels je m'en vais. Là, je trouve ça dur, en fait. J'essaie de pas trop y penser, parce que ces pauvres filles-là ont vécu...
C'était un cauchemar.
En peu de temps, heureusement, là, dans le sens que leur souffrance, je l'espère, c'est pas trop étiré longtemps. Là. Des fois, vaut mieux ça que ces gens souffrent, c'est encore pire. Mais je me mets dans la peau aussi des parents. Alors, j'ai trouvé ça difficile. Puis un peu comme je te disais avant qu'on enregistre, le fait que les autorités ont tellement très peu donné d'informations, ça devient aussi difficile de colliger tout ça et de faire des théories qui sont un peu... Pas que nos théories sont pas plausibles, mais quelque chose qui s'appuie sur quelque chose.
Exactement.
À distorsion.
Sur des vrais faits.
Oui, c'est ça. À distorsion, on aime bien avoir les vrais faits. Mais dans ce cas-ci, il a fallu beaucoup jouer avec les rumeurs. Mais c'était... Je vois qu'il y avait peut-être un axe aussi là-dessus intéressant de bâtir un peu notre recherche à partir de tout ce qui peut se dire sur le web. Mais j'ai vraiment... J'espère vraiment qu'il va y avoir du développement dans la prochaine année là-dessus, là, qu'il va y avoir un match d'ADN. Et cette personne-là, je peux pas croire que personne en Amérique
qui l'a
pas croisé à quelque part. Il est quand même assez atypique, là.
Ben oui.
Il y a cet aspect-là aussi qui me surprend, je dirais. Mais peut-être que la police suive quelqu'un depuis. Tu sais, des fois, elle a le temps d'amasser des preuves.
Oui, c'est long. Puis c'est encore jeune, l'enquête.
Oui.
Faut se rappeler.
Puis tu sais, est-ce qu'ils font faire les techniques pour avoir de l'ADN, là, tu sais, genre d'aller dans ses poubelles ou des choses comme ça? On voit ça. Des fois, ils vont prendre des outils, mais ils vont prendre des éléments qu'on a jetés hygiéniques ou des choses comme ça pour aller chercher de l'ADN. Est-ce que, tu sais, est-ce qu'ils ont une piste ou on nage vraiment en plein mystère?
Absolument. Ben, à votre tour, les distordus, de nous dire ce que vous pensez de cette histoire des meurtres de Delphi. Vous pouvez le faire sur notre groupe de discussion sur Facebook, qui est facile à trouver. Sinon, vous pouvez nous rejoindre sur Instagram aussi, Distorsion Podcast, Twitter, Distorsion Pod, et YouTube aussi, Distorsion Podcast, où il y a quand même une grande communauté active sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à rejoindre notre chaîne. Et pour terminer, Seb, aurais-tu un mot de la fin pour nous ce soir?
Si vous partez en randonnée, assurez-vous de laisser votre itinéraire sur le groupe de discussion de Distorsion Podcast.
MapQuest. Yahoo!